Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. En route, Le Libraire et Présence Information Religieuse. Au programme, comment contrer le décollage horaire et bien dormir. Littérature jeunesse autochtone, des livres fenêtres. Et Jésus sans tabou. Bonne écoute!
Comment contrer le décalage horaire et bien dormir? Un texte du Dr. Jim Chung, paru le 23 février 2022 dans le magazine En route. L'experte du sommeil, Céline Bastien, prodigue ses conseils pour mieux dormir, peu importe l'endroit. Que vous soyez du genre à vous endormir n'importe où, ou à avoir besoin d'une routine pour faire dodo, trouver un sommeil régulier et de qualité hors de chez soi est un défi pour bien des voyageurs. Certains souffrent du décalage horaire et de troubles du sommeil en voyage, mais on peut agir afin de mieux se reposer en déplacement, affirme Céline Bastien, présidente de la Société canadienne du sommeil et professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval à Québec. Le Dr. Jim Chung s'est entretenu avec la professeure Bastien de la perturbation de notre horloge interne quand on change de fuseau horaire, de l'importance des habitudes de sommeil et de la façon d'aider les enfants à rester bien reposés lors d'une escapade familiale pendant la semaine de relâche. Quel effet ont les changements d'heure sur notre rythme circadien? Notre corps fonctionne selon un horaire et est habitué à se lever à une certaine heure, à manger à intervalles précis et à s'endormir à telle heure. Lorsque nous traversons des fuseaux horaires, il perd ses repères habituels du cycle jour-nuit. Au moment du coucher, il peut avoir l'impression que c'est l'heure du souper, ce qui peut entraîner qu'on se couche trop tard, qu'on mange à des heures indues et qu'on se sente plus fatigué que d'habitude. Les recherches montrent aussi que plus nous traversons de fuseaux horaires, plus notre système devient confus et donc un trajet de Toronto à Londres peut être particulièrement épuisant. Quels sont les principaux effets du décalage horaire et les meilleures façons de les atténuer? Le décalage horaire peut provoquer divers symptômes, somnolence diurne, difficulté à s'endormir ou à rester endormi la nuit, irritabilité et troubles gastro-intestinaux. Pour remettre votre système sur pied, exposez votre corps à la lumière du jour, restez éveillé pendant la journée et mangez au moment qui convienne à l'endroit où vous êtes. En gros, faites comme les gens autour de vous. Si vous atterrissez le matin, essayez de déjeuner. Ça vous aidera à réajuster votre horloge interne. Que faire pour annuler l'effet de la première nuit, cette tendance à mal dormir la première nuit dans un nouvel endroit? À l'hôtel, on ne dispose pas des repères de sommeil sur lesquels on s'appuie avant de se coucher à la maison. Mais nous perturbons aussi nos habitudes de sommeil en mangeant plus tard, parfois dans la chambre, ou en consommant davantage d'alcool. Suivez une routine de sommeil aussi proche que possible de celle que vous avez chez vous, même la première nuit. Il pourrait s'agir de prendre votre bain habituel, de lire un livre ou de porter votre pyjama préféré. Par contre, les insomniaques chroniques ont tendance à bénéficier du changement des repères de sommeil. Ils ressentent un effet de la première nuit inversé et dorment mieux. Les troubles du sommeil liés au voyage peuvent être encore plus intenses chez les enfants. Que conseillez-vous pour aider ceux-ci à bien dormir en voyage? Les enfants sont très sensibles au décalage horaire, à la fatigue du voyage et à l'effet de la première nuit. À l'arrivée, faites une sieste, pas plus d'une heure, pour refaire le plein. Puis, trouvez une aire de jeu pour qu'ils se dégourdissent les jambes. Enfin, veillez à les coucher à l'heure habituelle, avec leurs jouets préférés de la maison. C'était « Comment contrer le décalage horaire et bien dormir », un texte du Dr. Jim Chung, paru le 23 février 2022 dans le magazine En route.
Littérature jeunesse autochtone, des livres-fenêtres. Un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique Je lis autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. En avril 2021, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence de la pédagogue américaine Kate Roberts, qui a utilisé une image qui m'est restée en tête. Des œuvres-fenêtres. On parle souvent de roman-miroir, de l'importance de pouvoir se reconnaître en littérature, qui vient avec le besoin de publier des œuvres de la diversité, mais j'aime aussi cette image de fenêtre. Comme si une lecture pouvait nous permettre de découvrir aussi la réalité de l'autre et de l'apprivoiser. Voici trois œuvres qui ont en commun l'ouverture sur l'autre et le fragile équilibre entre beauté et interpellation et qui offre une fenêtre sur les peuples autochtones du Québec. Dans « Niche, les malins », Isabelle Picard propose un récit réaliste qui raconte le quotidien d'Héloïse et de Léon, jumeaux de 14 ans qui vivent dans la communauté Innu de Matimekouche. Cette histoire est très accessible, puisque sa façon de s'appuyer sur des thèmes tels que la famille, l'amitié, les premières amours et la maladie s'apparente à celle d'autres collections populaires auprès des ados. La différence, c'est qu'ici, c'est le nord, et non le sud qui est montré. Ainsi, le quotidien des héros composé d'écoles, de chasses, de balades en motoneige ou en quatre roues et de hockey est bouleversé par deux événements qui s'ancrent dans la distance. Il y a d'abord l'oncle du meilleur ami de Léon qui disparaît dans la forêt alors qu'un carcajou rôde. Puis, le père des jumeaux reçoit un diagnostic de cancer qui l'oblige à aller se faire soigner à Wendake, 924 kilomètres au sud. Héloïse et Léon doivent donc vivre à distance cette maladie, le transport étant dispendieux. Bien qu'Isabelle Picard mette en lumière plus directement les différences entre le Sud et le Nord à travers un travail scolaire réalisé par Héloïse et ses amis, c'est tout au long du livre que le lecteur peut découvrir ce qui distingue la vie au Nord du 55e parallèle. Qu'il soit question de la température, des moyens de transport, de l'autonomie des adolescents, de la rareté des fruits et légumes et de leur coût, du style des maisons ou du rapport à l'école, chaque page est l'occasion de découvrir de nouveaux détails, d'apprendre. Question conscientisation. Si je disparais, Isatis, album prenant la forme d'une lettre écrite par une adolescente autochtone à un chef de police est aussi particulièrement efficace. Excellente élève, bénévole, amie, Brianna est la fille d'une mère célibataire qu'il aime plus que tout, une adolescente qui n'a pas d'instinct de fugue, qui ne prend pas de drogue. Et pourtant, elle a plus de chances de disparaître, de se faire agresser, violer, parce qu'elle est autochtone. Et comme il y a aussi moins de chances qu'on parle d'elle rapidement, de ce qu'elle est vraiment, pour que tous soient attentifs et puissent la rechercher si elle disparaît, ça donne l'impression à ses agresseurs potentiels qu'ils peuvent agir en toute impunité, que la vie des jeunes filles autochtones ne compte pas. Le recueil de poèmes « Ninoas, moi l'enfant » est paru aux éditions Mémoire d'Encrier en collaboration avec l'Institut Tchakapesh. Ainsi, Lydia Mestokocho-Paradis a mis son talent au service de textes écrits par des élèves du primaire et du secondaire dans la langue de leur choix, semés et recueillis par les poétesses Joséphine Bacon et Laure Morali. Chacun est ainsi proposé deux fois, en français, en Inuémoun ou en Nutchimiouémoun. Langue parlée à l'intérieur des terres, cette disposition formant au final un kaléidoscope de regard personnel. Au fil des pages, le lecteur voit apparaître les outardes, la taïga, les aurores boréales, les rivières, mais aussi les mocassins, la raquette, la chasse, les familles ou encore des drames intimes puissants, des pertes, des deuils, parfois dans des poèmes très courts, à la manière des haïkus, juste le temps d'une image fugace, parfois sur plusieurs pages, alors que les langues se mélangent et que des histoires peuvent se raconter autour des ancêtres, de l'importance de sauvegarder l'inou, de la première chasse et du souffle coupé à la vue du premier caribou. Certains poèmes, encore, sont inspirés de légendes et d'autres forment des devinettes, invitant le lecteur à découvrir au fil des mots la signification du mot en inou. C'est le genre de livre qu'on lit lentement, par morceaux, pour laisser vivre les mots et leur signification en nous. Une œuvre formant un collier de poèmes qui rassemble les différents villages au gré des images, des références et qui, tout comme « Niche » et « Si je disparais », nous permet d'appréhender une autre réalité et de questionner nos préjugés et surtout, nous donne envie de traverser la fenêtre pour tendre la main. C'était « Littérature jeunesse autochtone, des livres fenêtres », un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Jésus sans tabou, une chronique littéraire de Louis Cornélier, parue le 4 avril 2023 dans Présence, information religieuse. Jésus était-il écolo et féministe? A-t-il eu une vie sexuelle? Savait-il écrire? Est-il vraiment ressuscité? A-t-il même vraiment existé? Je suis assez vieux pour avoir reçu, dans les années 1970 et 1980, un enseignement religieux à l'école et je peux vous dire que ces questions, à l'époque, ne faisaient pas partie du programme. Soulever certaines d'entre elles en classe nous aurait certainement valu une visite au bureau du directeur pour insolence. Aujourd'hui encore, dans les milieux chrétiens conservateurs, les questions de ce genre sont considérées comme hérétiques. Le professeur d'études bibliques Sébastien Dohan, lui, depuis des années, s'en amuse et s'en sert pour donner le goût du christianisme à ceux et celles de plus en plus majoritaires qui se sont éloignés de cet univers ou ne s'y sont même jamais frottés. Doucement culotté, il accueille toutes les questions sur le christianisme, même les plus saugrenues, et se fait un plaisir d'y répondre de manière à la fois souriante, respectueuse, accessible et érudite. Le lire est un charme. Dans « Questions controversées sur Jésus », paru chez Novalis en 2023, 224 pages, il remet ça en réunissant autour de lui 7 théologiens et biblistes, Anne-Marie Chapelot, Francis Daou, François Doyon, David Lebel, Odette Mainville, Antoine Paris et Guylain Prince, qui partagent son approche. Le but, explique Dohan, est de proposer une réflexion sympathique et rigoureuse sur le personnage de Jésus. Si vous ne craignez pas de vous déboutonner, vous allez en redemander. Jésus sexué. Dohan, par exemple, s'attaque au tabou des tabous en se demandant si Jésus a eu des relations sexuelles. Question difficile, évidemment, puisque la Bible ne dit rien là-dessus. Qu'à cela ne tienne, le bibliste se lance. Le corps humain de Jésus devait fonctionner comme les autres corps humains, écrit-il. Pour dire les choses crûment, Jésus avait un pénis circoncis et devait s'en servir comme les autres hommes. S'il n'a jamais eu d'épouse ou de relations sexuelles, s'il ne se masturbait pas, son corps a pu provoquer naturellement des orgasmes spontanés pendant le sommeil, comme c'est le cas, semble-t-il, pour la vaste majorité des hommes au cours d'une vie. Jésus, cela admis, ne se prononce pas vraiment sur la sexualité et préfère, en matière de morale, parler d'amour. Dohan suggère d'ailleurs à l'Église de suivre son exemple. Le ton est donné. Un homme sur la terre. Un tel ouvrage ne pouvait évidemment pas passer à côté de la question de l'existence historique de Jésus. La réponse proposée ici est d'autant plus intéressante qu'elle est l'œuvre de François Doyon, docteur en philosophie, étudiant à la maîtrise en théologie à l'Université Laval, athée et laïciste militant, qui a déjà dénoncé l'imposture de la religion. Trois arguments, explique-t-il, sont avancés par ceux qui nient l'existence historique de Jésus. Les témoignages directs manquent. Paul est avare de détails précis sur la vie de Jésus et décrit ce dernier comme un être surnaturel. Conclusion, Paul a inventé Jésus. Les partisans de la thèse du Jésus historique répliquent avec quelques sources non chrétiennes. Flavius Joseph, Tacite, Suétone et Pline le Jeune, qui évoqueraient le personnage. La fiabilité de ces sources, souvent révisées par des copistes chrétiens, est plutôt faible. Les sources chrétiennes, le Nouveau Testament, sont plus convaincantes, note Doyon. Paul, par exemple, comme l'historien Joseph, parle de Jacques, le frère de Jésus. La mention ne peut venir d'une révision postérieure puisque les copistes chrétiens étaient attachés au dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Deuxièmement, la condamnation de Jésus par les Romains plaide en faveur de l'existence réelle. En écrivant les évangiles, les chrétiens veillent à ne pas provoquer le pouvoir romain qui les menace et attribuent donc une grande partie de la responsabilité de la mort de Jésus aux Juifs. Pourtant, ils ne cachent pas la crucifixion, une mise à mort typiquement romaine. Donc, des gens devaient savoir ce qui s'était réellement passé, avance Doyon. Plus encore, cette mort par crucifixion, honteuse, ne s'invente pas puisqu'une autre mort aurait été plus glorieuse. Par conséquent, conclut Doyon, l'hypothèse selon laquelle Jésus ne serait qu'une invention semble plus improbable que son opposé. Étant donné l'ancienneté de l'affaire, les preuves indubitables manqueront toujours. mais il semble raisonnable de croire que Jésus a marché sur terre et a parlé aux humains. Vous écoutez « Jésus sans tabou », une chronique littéraire de Louis Cornélier, parue le 4 avril 2023 dans « Présence, information religieuse ». Ses frères et sœurs. Dans le même ordre d'idées, David Lebel, lui aussi étudiant à la maîtrise en théologie à l'Université Laval, en arrive, après une fine lecture des sources, à la conclusion que Jésus avait bel et bien des frères et sœurs biologiques. Paul, on l'a dit, parle de Jacques, le frère de Jésus. Les synoptiques, Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, mentionnent ses frères et sœurs. Le problème se pose, évidemment, en regard de l'idée de la virginité perpétuelle de Marie. Des auteurs optent donc, en ce sens, pour la thèse des demi-frères et des demi-sœurs issus d'un premier mariage de Joseph. D'autres disent que le terme « frère » peut avoir le sens de « disciple » ou de « cousin ». Où sont-ils, d'ailleurs, ses frères et sœurs quand Jésus, à 12 ans, à Jérusalem, discute avec les maîtres de la loi pendant que ses parents inquiets, sans autre enfant avec eux, d'après le texte, le cherchent? Lebel soupèse toutes ces hypothèses avant de conclure que le plus probable est que Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. En accord avec lui, je ne vois pas pourquoi ce fait discréditerait le rôle de Marie dans l'histoire. La langue de Jésus. Le bibliste franciscain Guilain Prince se penche, pour sa part, sur les compétences linguistiques de Jésus. Savait-il même lire et écrire? Selon l'historien Daniel Marguera, Jésus parlait principalement l'araméen, parvenait à se faire comprendre en grec et savait probablement lire l'hébreu biblique. D'autres, comme l'historien irlando-américain John Dominic Crowson, imaginent plutôt Jésus en paysan illettré. Guilain Prince se range dans ce dernier camp. Jésus, explique-t-il, n'enseigne pas par des textes, mais oralement. Il évoque les traditions bibliques plus qu'il ne les cite. Quand il proclame des extraits bibliques, c'est qu'il les connaît par cœur à force de les avoir entendus à la synagogue. On peut donc présumer que, comme 95% des Galiléens, Jésus ne sait ni lire ni écrire, tout simplement, note Prince, parce qu'il n'en a pas besoin, ce qui n'enlève rien à sa sagesse, à son intelligence et à sa grandeur. Jésus vers. Sans craindre l'anachronisme, la bibliste Anne-Marie Chapelot se demande si Jésus aurait voté pour le Parti vert. Était-il écolo? Bien sûr, il est presque toujours dehors, il marche beaucoup et pratique le locavorisme, mais c'est plutôt, à l'évidence, par la force des choses que par conviction morale. Son rapport aux animaux ne passerait pas le test de pureté végane. Il mange du poisson et envoie sans émotion des porcs se suicider dans un lac. Sa posture peut dès lors être qualifiée d'anthropocentrique, note Chapelot dans une conclusion critique pour le moins intempestive. La bibliste, irritée par certaines figures bibliques et même évangéliques qui demeurent troublantes du fait qu'elles sont teintées de racisme, de sexisme, de mentalité patriarcale ou d'anthropomorphisme, tente ensuite une relecture symbolique de tout ce qui précède pour faire contrepoids, mais sa démonstration peine à convaincre pour une raison très simple. Le christianisme, que ça nous plaise ou non, est un anthropocentrisme, c'est-à-dire un humanisme, ce qui n'exclut évidemment pas un devoir de respect et d'amitié à l'égard de la création. Avec les femmes. Si Jésus n'était pas un écolo au sens moderne du terme, peut-on par ailleurs le qualifier de féministe en le considérant dans son contexte historique? La théologienne et romancière Odette Mainville n'hésite pas à le faire. À l'époque de Jésus, note-t-elle, les femmes juives étaient mineures du berceau à la tombe et donc privées d'autonomie. Pourtant, un grand nombre d'entre elles se retrouvent dans l'entourage de Jésus, ce qui ne va pas s'en surprendre. Plusieurs épisodes évangéliques montrent Jésus accueillant chaleureusement des femmes rejetées. La femme souffrant d'hémorragie, la pécheresse chez Simon, ou fréquentant des amis, Marthe et Marie, en l'absence d'hommes, une hérésie à l'époque. Cette dernière Marie est même présentée comme une disciple de Jésus, une position d'habitude réservée aux hommes dans la société juive du temps. Jésus discute avec la Samaritaine et défend la femme adultère. Après sa résurrection, il réserve sa première apparition à Marie de Magdala. Découvrant ce portrait, on ne peut que se désoler de la marginalité des femmes dans l'Église d'hier et d'aujourd'hui, infidèle à son maître féministe. Le Jésus qui habite les pages de ce livre n'est pas une icône intouchable qu'on sort pour impressionner la galerie. C'est une figure inspirante, puissante, un maître amical qu'on peut remettre en question franchement parce qu'on l'aime. Il lirait ses biblistes et théologiens audacieux avec le sourire. C'était « Jésus sans tabou », une chronique littéraire de Louis Cornélier, parue le 4 avril 2023 dans « Présence, information religieuse ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.